France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Dès qu'il fut jeune homme, à l'âge de 20 ans seulement, mon père épousa ma mère, une pauvre jeune fille qui le préféra à un riche distillateur chez lequel elle avait été servante. Ils ne possédaient alors absolument rien, mais ils étaient très épris l'un de l'autre. Il aurait fallu acheter un lit pour les marier, mais il n'y avait pas assez d'argent pour cela. Or, un comte venait de mourir. Là, en ville, on l'exposa sur un lit de parade. Une grande estrade de bois, recouverte de tissu noir, portait le cercueil. Quand, ensuite, il eut une vente aux enchères, mon père acheta cette estrade et comme il était adroit de ses mains, il fabriqua un lit de mariée à partir de cette couche de parade mortuaire. Là où le cadavre paradait, riche mais mort, reposa, l'année suivante, pauvre mais vivant, un poète nouveau-né, c'est-à-dire moi-même. Ainsi, Hans Christian Andersen relate-t-il l'histoire de sa naissance dans sa première autobiographie, rédigée, tenez-vous bien, à l'âge de 28 ans. Né dans la petite ville de Odense, sise en Fyonie, l'île centrale du Danemark, le jeune écrivain ne ressemblait en rien à ceux qui composaient les milieux littéraires de l'époque, ni par son milieu social, pauvre donc, ni par son allure, lui qui était une sorte de grand escogriffe doté d'un long visage, orné d'un nez proéminent et de petits yeux rieurs. En 1981, pour la série « Un homme, une ville », Pierre Descargues eut l'idée d'arpenter les rues de Odense pour nous faire découvrir le parcours de cet auteur mondialement célèbre et pourtant assez méconnu. Dans le premier épisode de cette série, qui en comptait trois, il se penche sur la jeunesse du conteur et nous raconte comment il fit son entrée en littérature. « Un homme, une ville », Hans Christian Andersen à Odense, premier épisode, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 février 1981.
C'était une fois un prince qui voulait avoir une princesse, mais elle devait être une vraie princesse. Et il voyagea dans le monde entier pour en trouver une. Mais toujours il y avait quelque chose à redire. Les princesses ne manquaient pas. Mais étaient-elles de vraies princesses? Il ne pouvait s'en assurer. Tout à fait. Toujours il y avait quelque chose qui n'était pas comme il fallait. Et il rentra chez lui tout chagrin, car il aurait voulu avoir une véritable princesse.
Un homme, une ville, Hans Christian Andersen, à Odense, en Fyonie, au Danemark. Au Danemark et dans le monde entier, partout où il y a des enfants qui aiment ces contes dans le texte et dans la mémoire. Des enfants comme Emmanuel, 8 ans, qui relit avec André Dusselier et Catherine Laborde le conte du petit pois.
Un soir, on eut un temps affreux. Éclairs et tonnerre, pluie et torrent, c'était effrayant. On frappa à la porte de la ville. Et le vieux roi alla t'ouvrir. C'était une princesse qui était dehors. Mais Dieu, de quoi avait-elle l'air avec cette pluie et ce vilain temps? L'eau lui coulait dans les cheveux et sur ses vêtements. Elle lui entrait dans le nez et dans ses souliers et sortait par les talons. Et elle dit qu'elle était une véritable princesse. Bon, c'est ce que nous verrons, pensa la vieille reine, mais elle ne dit rien. Alla dans sa chambre à coucher, enleva toute la literie
et quoi ?
La literie et déposa un petit pois au fond du lit.
Hans Christian Andersen tel que nous l'avons rencontré dans les maisons basses d'Odense à l'hospice des Frères Gris, sur le quai de Nyhavn à Copenhague, au bord de la mer où s'envolent les cygnes sauvages, sur les champs de neige où il écrivit le mot « immortalité » et tel qu'il vit tous les jours dans l'esprit des enfants danois ou français. Andersen du souvenir, Andersen de l'imaginaire, inséparable.
Puis elle prit 20 matelas et les étendit par-dessus le poids et mit encore 20 couettes de plumes d'Adé par-dessus les matelas. C'est là que la princesse devait coucher la nuit. Le matin, on lui demanda comment elle avait dormi. « Oh, terriblement mal! Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'ai couché sur quelque chose de dur et j'en ai le corps tout brun et bleu. C'est terrible. » Alors on put voir que c'était une vraie princesse, puisqu'elle avait senti le petit poids à travers les 20 matelas et les 20 couettes de plumes.
Trois émissions de Pierre Descargues et d'Eliane Millot, prise de son Daniel Labigne, avec Claude Gainbay, folkloriste, et Niels Oxenvad, conservateur de la maison d'Andersen à Odense. Première émission, le fils du savetier et de la blanchisseuse.
Seule une vraie princesse pouvait avoir la peau si délicate. Le prince la prit donc pour femme, car il savait maintenant qu'il avait une vraie princesse. Et le poids fut placé dans le cabinet des objets d'art, où il est encore si personne ne l'a pris. Voyez, c'est là une vraie histoire. Ce qui est drôle, c'est que le petit pois, quand on met 20 matelas, ce qui est drôle, c'est que c'est pas vrai. Un petit pois, on peut pas les sentir entre 20 matelas et 20 couettes.
Ah oui. Alors c'est ça qui est drôle, parce que c'est pas vrai.
Oui.
À ton avis, c'est pas possible. Mais alors pourquoi il voulait absolument choisir une princesse qui sentirait le petit pois sous le matelas? Pourquoi, à ton avis?
Eh bien, c'était pour voir une vraie princesse, si c'était une vraie princesse.
Dans l'annuaire du téléphone à Odense, j'ai dénombré environ 2400 abonnés Andersen. 11 se prénomment même, comme lui, Hans Christian. Ce ne sont pas ses descendants. Andersen, célibataire, amoureux toujours éconduit, n'a pas laissé d'enfants. Simplement, quand il venait dîner dans une demeure, les petits avaient le droit de se coucher une heure plus tard. Votre attention, s'il vous plaît. N'attachez pas votre ceinture. Les cygnes sauvages qui vous emportent vont se poser sur la rivière à Odense. La ville est enneigée. La température au sol est de moins 5 degrés. Nous sommes dans le petit quartier d'Odense. C'est la vieille ville. La vieille ville qui est désormais coupée en morceaux. Au milieu d'elle passent des routes de dégagement, des rocades, des boulevards périphériques. Et il y a encore par-ci par-là quelques petits morceaux de cette vieille ville où les maisons ont généralement un étage, c'est un maximum. Elles sont en bois et en torchis et peintes de couleurs vives. Et les maisons ne semblent pas creusées dans la terre. Elles sont assises sur les pierres qui couvrent la route, qui couvrent la rue. Et elles sont assises tranquillement, et elles semblent regarder de tous leurs yeux, car leurs vitres sont bombées, elles semblent regarder de tous leurs yeux ce qui se passe dans la rue, et peut-être qu'elles regardent encore le souvenir du petit enfant qui est apparu ici et qui a fait ses premiers pas. Devant nous, un grand soleil qui est levé un peu haut, c'est la porte de la maison où la municipalité d'Odense a installé le musée Hans Christian Andersen.
Thank you. C'est la ville d'Odense qui a installé ce musée dans ce quartier parce qu'Andersen est né à Odense. Il est odensénien par naissance. Et on a acheté la maison où il est né en 1805. Et c'est c'était le premier musée, le noyau du musée actuel. Mais maintenant, naturellement, c'est un musée beaucoup plus large pour contenir ses collections. Mais ce qu'on essaye dans ce musée, c'est de donner une idée de la vie et de l'œuvre d'Andersen.
Bien, alors on va le visiter, ah oui. Si vous le voulez bien.
Oui, le musée a certains différents parties. Il y a la maison historique, construite en colombage, qui, au temps où Andersen est né ici, contenait 3 familles et 15 personnes. Maintenant, c'est 7 petites chambres pour les expositions. Une exposition historique qui commence avec sa naissance, son enfance à Odense. Et puis, on le suit dans sa carrière, au premier pas, comme acteur et danseur et chanteur à Copenhague. Oui, son enfance à Odense, puis ses années de jeunesse à Copenhague, et alors son début comme poète, comme écrivain. Pas comme écrivain de contes, ça arrive plus tard, mais il commence avec de la lyrique et des romans.
On va voir ça pièce par pièce.
Oui, c'est ça.
Disons pour que les auditeurs le sachent, c'est que nous sommes dans un musée, c'est évident, mais c'est essentiellement une maison. Les pièces sont très petites. Vous êtes grand, monsieur Oxenvald, il faut vous baisser chaque fois que vous franchissez un seuil.
Attention à la porte,
attention à la tête.
Oui, à la tête, oui, c'est ça. Oui,
c'est pas si simple. Alors, si vous voulez, dans cette première salle où nous trouvons une description, des images de Odense,
comme Odense était autrefois.
Alors, c'était une petite ville.
Une petite ville d'une dizaine de mille d'habitants.
Mais importante pour le Danemark à l'époque.
Oui, à l'époque, c'était la ville numéro 2, après la capitale. Oui, c'est ça.
Et des commerces, des industries, de l'agriculture
Pas des industriels, mais du commerce, oui, il y en avait. Oui, des négociants. Mais Odense, à cette époque, avait toutes les classes sociales qui a caractérisé la société de l'enfance d'Andersen. Ses grands-pères sont nés dans la campagne, mais ses parents étaient nés à Odense et lui-même aussi.
Est-ce qu'ici, il y a une image qui est particulièrement révélatrice du milieu d'Andersen?
Oui, il y en a parlé.
Le père cordonnier, la mère blanchisseuse, on imagine des revenus très très petits
très modestes,
et peu d'argent,
oui,
et à la limite, quelquefois un peu la misère.
Il faut dire que le foyer d'Andersen était pauvre, mais on n'a pas reçu quelque chose de l'assistance publique, mais on était sur la frontière de l'assistance publique. C'est-à-dire que Andersen a suivi, il a eu une éducation scolaire dans l'école de l'assistance publique. Et sa mère, son grand-père et autres de sa famille ont passé leurs dernières années dans un asile pour les pauvres, pour les malades, pour les hommes insensés même. Cet hôpital des frères gris, des frères mineurs, et qui vit encore. Cette institution est encore là. Mais il faut dire que Odense, de nos jours, diffère beaucoup de l'Odense de l'enfance d'Andersen.
Est-ce qu'on peut dire que l'image de la folie est présente dans son enfance?
Oui.
C'est important.
Oui. C'est important, oui. Et pendant toute son existence. Existence, oui, c'est ça.
Donc l'école, disons, pour actuellement, ce serait l'école primaire, l'école communale, la plus simple.
Oui.
Il apprend à lire et à écrire.
Oui.
Et à compter.
Mais il était assez paresseux à l'école. Il a rêvé à l'école, regardé par la fenêtre.
Comme
même
s'il
il avait un instructeur très intelligent. Mais ce n'était pas à l'époque. C'est-à-dire, quand il est allé à Copenhague, à l'âge de 14 ans, pour chercher sa fortune, il a pu naturellement lire et écrire, mais pas plus que ça. Mm-hmm. C'est tout.
On raconte que dans son enfance, il y a eu un épisode important, c'est la découverte du théâtre à Odense.
Oui.
C'est important.
Et ça lui a donné... Voilà, il y en a une estampe du théâtre qui n'existe plus. Mais c'était pour Andersen, comment dire, son ciel. Mm-hmm. Aller au théâtre avec ses parents, c'était des épisodes très remarquables. Et ça lui a donné l'idée de chercher sa fortune sur la scène.
Et bon, pour... On raconte qu'il a, voyant un spectacle un jour où la salle était pleine, qu'il a dit, mais c'est extraordinaire, si dans une pièce on avait autant de jambon...
Autant de beurre,
voilà.
Qu'il y en a de spectateurs, comme j'étais riche. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup d'anecdotes sur l'enfance d'Andersen.
Qui sont inventées après, je pense.
Non, il les a racontées lui-même.
Dans l'histoire de sa vie.
Dans son... Oui, c'est ça.
I hele verden er der ingen, der kan så mange historier som Ole Lukøje. Han kan rigtig nok fortælle. Sådan ud på aftenen, når børn sidder nok så net ved bordet eller på deres gammel, kommer Ole Lukøje. Han kommer så stille op ad trappen, hvor han går på...
Le marchand de sable. Dans le monde, il n'y a personne qui sache autant d'histoires que le marchand de sable. Il a vraiment de quoi raconter. Vers le soir, quand les enfants sont bien sagement assis sur leur tabouret, Olé, le marchand de sable, monte tout doucement l'escalier, ouvre silencieusement la porte et pfut, il lance des grains de sable dans les yeux des enfants. Des grains si fins qu'on ne peut plus tenir les yeux ouverts. C'est pour cela qu'on ne le voit pas. Il se faufile derrière les enfants, leur souffle un peu dans le cou, et alors ils ont la tête lourde. Mais cela ne leur fait pas mal, car le marchand de sable n'a que de bonnes intentions. Il veut que les enfants soient sages, et ils le sont surtout quand on les met au lit. Il faut qu'ils se tiennent tranquilles pour qu'ils puissent leur raconter ces histoires. Quand les enfants sont endormis, le marchand de sable s'assied sur le lit. Il porte de beaux habits. Un manteau de soie. Mais on ne peut pas savoir de quelle couleur il est, car il a des reflets verts, rouges ou bleus. Sous chaque bras, il tient un parapluie. Des images sont dessinées sur l'un d'eux, et il l'ouvre au-dessus des enfants sages qui vont faire de beaux rêves pendant la nuit. Sur l'autre parapluie, il n'y a rien du tout. Il l'ouvre au-dessus des vilains enfants qui dorment bêtement d'un sommeil lourd et se réveillent le matin sans avoir rien rêvé.
Mais peut-être qu'il faut dire que cette institution des frères Gris a eu pour lui une grande importance parce que c'est ici qu'il a écouté les contes populaires qui a été la première source de ses premiers contes.
Comment les a-t-il connus, ces contes? C'est par sa grand-mère, sa mère?
Oui, et les vieilles femmes qui étaient domicilées dans cet asile. On a raconté ces vieilles histoires, ces contes populaires, et on a chanté pour lui. Et Andersen lui-même, il a payé pour cette lecture en faisant la lecture de l'anatomie de l'homme, en dessinant un homme sur les portes de cette chambre où on a fait... C'est ça.
D'éveiller. Oui, ce serait les frères Gris dont vous parlez. C'est un milieu catholique.
Ah oui, mais
c'est très surprenant.
Cette institution garde encore ce nom, même trois centaines après la réforme. C'était simplement une institution sociale. Mais ça porte encore, à nos jours, le nom des frères Gris. C'était autrefois un monastère, oui.
C'était un monastère,
oui, oui.
Il le sait,
Jusqu'à 1536, c'était une institution pour des frères Gris. Et après la réforme, on l'a transformé en institution sociale.
Parce que quelle est la part dans les récits qu'il entend comme ça, de récits religieux? Enfin, parce qu'on a l'impression qu'il y a une très grande importance de...
Pour lui?
Oui, du religieux, bien sûr.
Non, je crois que non, que dans son foyer, il faut dire que son père était... Est-ce que vous comprenez le mot rationaliste?
Oui, bien sûr.
Du XVIIIe siècle. Et
cordonnier, c'est surprenant.
Oui, c'est ça. Et sa mère, au contraire, elle avait une religion très primitive et même superstitieuse. Ce contraste entre le père même, est-ce qu'on peut dire libre-penseur,
franc-penseur,
oui. Et puis la mère superstitieuse. Ça a donné Andersen une, situation spéciale dans les matières religieuses, je
Est-ce
crois.
Est-ce qu'il a pu prendre position plus tard,
Je crois qu'il a suivi son père.
Il a suivi son père. Bien que les récits
Mais
soient ceux
Mais il était
super,
superstitieux, oui.
C'est ça.
Oui.
Enfin.
Mais Andersen est toujours... Il a une nature double.
Bien sûr, là, ça se sent très bien.
Dans les différents respects.
C'est très curieux. C'est très curieux. Imaginez un libre penseur dans un niveau comme ça, en fait.
Oui. Mais comme artisan et comme prolétaire, je crois que son père était hors de concours avec ses confrères, parce qu'il était un homme qui était épris par la littérature, par le théâtre. Il a fait la lecture de La Fontaine pour lui et du Shakespeare. Et puis le drama danois Holberg, notre Molière aussi. C'est-à-dire que Andersen a reçu ses impressions dans son foyer à l'âge de 3 ans ou 4 ans. Et puis, à l'âge de 14 ans, Andersen cherche sa fortune à Copenhague. C'est-à-dire qu'il a dû survaincre une résistance dans son milieu, parce qu'on a voulu le faire un artisan lui-même, peut-être comme, pas comme cordonnier, mais comme tailleur, parce qu'il avait des dons pour coudre et tout ça. Mais il a fait beaucoup de marionnettes pour son petit théâtre, n'est-ce pas, construit avec son père. Mais il cherche la scène, le théâtre royal de Copenhague, et avec 13 ou 14 riksdaler dans la poche, c'est tout. Mais il a confiance en lui-même et en la Providence, que le bon Dieu a voulu quelque chose pour lui. Comme le héros de ses contes, il simplement va dans le monde pour chercher la fortune. Il la trouve, mais pas aussitôt.
Il a écrit une pièce pour le théâtre de Royal qui est refusée, je crois.
Oui, oui. Il a écrit plusieurs pièces qui étaient refusées. Et je crois que ces pièces étaient pas trop mûries, mais... On les connaît guère.
Parce qu'on ne les a pas refusés parce que c'était plein de fautes d'orthographe.
Aussi, ça a compté aussi. Mais c'était des tragédies pas trop originales. Il a cherché ses sujets, ses caractères chez un poète qui s'appelle Oehlenschläger. C'était le romancier et le dramaturge bien connu, oui, du romantisme danois. Et puis, il a cherché une inspiration chez Walter Scott, l'anglais, et chez Shakespeare aussi.
Oui, qu'il avait donc lu en danois, en traduction.
Oui, oui, en traduction, oui.
Donc,
parce qu'il
les a lus en
traduction.
Oui, avant de partir pour Copenhague, c'est déjà un garçon qui a beaucoup lu.
Oui, oui, c'est ça. Et pendant toute sa vie, il était un homme lisant, toujours, toujours lisant.
Qu'est-ce que tu connais encore? Qu'est-ce que tu veux lire? Ou qu'est-ce que tu voudrais me raconter plutôt? Tu n'en connais pas un autre que tu peux me raconter? Poussette, par exemple, tu connais? Non.
Pas bien.
Et Le Petit Canard Sauvage. Ou alors me lire simplement un passage d'un des contes que tu aimes bien. Elle regarde à la table des matières. Lequel tu préfères? De tous ceux que tu connais, même si tu les connais pas tous, ça n'a pas d'importance.
Les fleurs de la petite Ida.
Tu le connais, ça? C'est quoi? C'est quelle histoire? Comment c'est? Qu'est-ce que c'est?
Eh bien,
qui c'est la petite Ida?
C'est une petite fille.
Oui.
Et elle a des fleurs, elle a un jardin.
Oui.
Et puis elle a une belle maison. Alors, elle a dans son jardin, elle a vu une... le jardinier et ses fleurs qui étaient fanées. Alors elle demande à son jardinier, « Oh, pourquoi mes fleurs sont toutes toute fanée alors qu'hier soir elles étaient ravissantes. Alors il lui dit, c'est qu'elles sont allées au bal hier soir. Alors la petite idée, elle lui dit, mais les fleurs ne savent pas danser, elles ne peuvent pas aller au bal. Alors le jardinier dit, mais si toutes les fleurs vont au bal des soirs, et à minuit sonnant, eh ben, la reine des fleurs et le grand soleil, le roi, arrivent en cérémonie. Alors, petite idée.
Attends. Non, mais c'est vrai ce que dit le jardinier. Alors, les fleurs vont au bal. Toi, tu crois?
Non, moi, je crois pas.
Ah non, tu crois pas?
Mais dans l'histoire, c'est vrai.
Dans l'histoire, c'est vrai. Tu crois ce que dit le jardinier? Bon. Enfin, non, tu n'y crois pas, mais c'est bien d'y croire, quoi. C'est ça.
Nils Oxenvad Andersen, 14 ans, arrive à Copenhague. C'est une entreprise complètement folle.
Oui.
Mais il a raison de la faire.
Oui, oui. Et puis, il réussit à avoir une certaine position au Théâtre Royal. D'abord, il commence avec la chanson. Et puis, il essaye de danser. Et il réussit à avoir son début comme danseur.
Mais vous avez le document, là.
Oui, oui. Le programme d'un ballet qui s'appelle Armida. C'est pas un, je regrette, c'est pas un ballet de Bournonville, d'origine française. Mais c'est un ballet fait par un autre Danois qui était là pendant la période où Bournonville est allé en France. Et c'est peut-être pourquoi Andersen a eu la chance d'avoir son début.
Alors, imaginons Hans Christian Andersen sur la scène du Théâtre Royal de Copenhague, et décrivons-le un peu. C'est un homme qui est grand.
Et oui.
Et très maigre, déjà. Un garçon qui est grand et très maigre.
Il n'avait pas la figure d'un danseur, je crois. Pour moi, ça a été une figure assez comique comme danseur. Mais il a eu son début, il était fier d'avoir de lire son propre nom dans la liste des danseurs. Il a eu le rôle d'un, en danois ça s'appelle un troll, un gnome ou quelque chose comme ça. Déjà. Et c'était pour lui un grand moment de lire son propre nom.
Ah, je comprends.
Imprimé.
Mais ce travail à l'opéra ne va pas durer.
Non, seulement 3 années, puis on l'a congédié. Mais avant d'être congédié, il a cherché d'écrire pour le théâtre. Et voilà, on a un exemplaire de son premier livre qui s'appelle « Des essais juvéniles ». Et ça a été publié sous pseudonyme William Christian Walter. Ça veut dire William Shakespeare, Hans Christian Andersen and Walter Scott. Naturellement, ce n'était pas un succès. Et c'est-à-dire que ce livre est très, très, très rare maintenant, parce qu'il y avait un très petit nombre, et peut-être qu'on a vendu 2 ou 3 exemplaires.
Ah oui, et ça c'est en quelle année?
En 1822,
donc,
à l'âge de 17 ans, oui.
Oui.
Ah oui. Alors continue, excuse-moi, alors je t'ai arrêté. Vas-y,
alors, après, alors la petite idée, elle dit le soleil à minuit, ce n'est pas possible. Mais non, la grande fleur jaune qu'on appelle le soleil. Et puis, alors après...
Attends, j'ai pas compris ça.
Parce qu'elle dit le soleil.
Oui.
Le grand... la reine des fleurs et le grand soleil, le roi. Alors, il lui dit, après, elle dit, la petite Ida, le soleil à minuit. Et puis, il dit, mais non, pas le soleil à minuit, mais la grande fleur qu'on... jaune qu'on appelle le soleil.
Mmh.
Alors après, elle dit, oh, mes pauvres fleurs, je vais aller les coucher. Alors elle va voir sa poupée Mireille et elle lui dit, pousse-toi Mireille, faut que je couche les fleurs à côté de toi. Alors elle les couche et puis le soir, quand son papa et sa maman ils vont à l'opéra, elle dort. Pendant qu'elle dort, il y a quelqu'un qui entre dans sa chambre. Elle, la petite Ida, elle sursaute de son lit et elle demande qui est là. Et puis c'était une grande fleur, je me rappelle plus de son nom, qui était en train de... Elle lui dit, venez, n'ayez pas peur, c'est la reine des fleurs qui vous invite au bal ce soir. Parce que vous avez été gentille avec nos fleurs. Alors il y accompagne. Et puis tout le monde danse, et puis à minuit sonnant, tout le monde s'arrête de danser, et il y a la reine des roses la reine des fleurs et le grand soleil qui arrive. Et puis après, il la remercie. Et le matin, quand elle se réveille, Ida, elle est dans les bras de son papa et sa maman. Et puis eux, ils lui disent, ben alors ma petite fleur, t'as fait de beaux rêves. Voilà, c'est tout. C'était un rêve en tout.
Mais à cette époque-là, la direction du théâtre a cherché pour lui les moyens lui permettant d'aller à l'école, avoir une éducation scolaire deuxième, on peut dire, pour prendre son baccalauréat. Et ça dure environ 6 années.
Ça, c'est une période très dure.
Il faut recommencer...
À zéro.
Oui.
Mais ça, c'est donc un effort de la société danoise pour permettre à un jeune homme dont on voit qu'il a des talents.
Il a des talents, on ne sait pas encore quelle la nature de ses talents, mais il ne faut pas perdre ce citoyen qui peut être inutile pour la société danoise, c'est ça.
Alors qui va financer ces études?
Le roi.
Est-ce qu'il était courant que le roi se charge de l'éducation d'enfants, disons, pauvres, pour simplifier?
Oui, si ces enfants ont démontré des talents spéciaux.
Et là commencent alors 6 années difficiles. Il
très, très difficile.
On l'envoie à la campagne.
Il commence à Sleijulse, à l'ouest de Ceylan, et puis il finit à Elsinore, et il passe son baccalauréat à l'université de Copenhague, parce qu'il n'avait pas de très bonnes relations avec le directeur de l'école, qui s'appelle M. Meisling, qui était un... Comme pédagogue, je crois qu'il avait... Il était talenté, mais il n'avait pas de conception de la nature d'Andersen. C'est-à-dire que les relations étaient très mauvaises entre ces deux natures.
Mais jamais il ne l'oubliera, ce professeur, au point que, jusqu'à la fin de sa vie, il aura des cauchemars où le professeur réapparaît.
Oui, c'est ça. Beaucoup d'années après la mort du proviseur, oui, c'est ça.
Il y a là un petit texte, si je ne l'ai pas perdu, d'Hersette qui me paraît intéressant, où il dit ceci, j'espère que c'est bien traduit en français, « Les lois de la nature sont les pensées de la nature, sont la pensée de Dieu, la nature est esprit. »
Oui.
Ça me paraît un beau texte et qui va bien avec la littérature.
Et on peut relire les mêmes pensées dans un conte d'Andersen qui s'appelle « La cloche ». Un de ses meilleurs contes de la période 1840, de ces années.
Bien. Donc pensons que Andersen a son baccalauréat, après un effort de 6 ans, qui a dû être non seulement pénible pour lui à cause de son professeur, mais aussi à cause du fait qu'il était avec des élèves de 10 ans, alors que lui en avait 18, à peu près.
Il avait 18 à commencer, oui, 17 à commencer, et puis la... pris son baccalauréat à l'âge de 23, oui, c'est ça.
C'est-à-dire,
il est plus âgé que ses
confrères. En retard sur les autres, plus âgé que tout le monde. Oui. Donc ça a dû aussi contribuer à le mettre un peu en marge, à côté.
Oui. Il était un personnage à côté, et il a resté un personnage à côté pendant toute sa vie, à regarder la société.
Là, il me semble que c'est, comme vous disiez tout à l'heure, c'est quand même double. C'est-à-dire que d'une part, bien sûr, il est le grand dadais au milieu des enfants qui peuvent se moquer de lui. Mais il a connu le monde.
Oui.
Et j'ai l'impression qu'il doit avoir auprès des gens qui sont autour de lui quand même le prestige. On pense au grand Mône, par exemple. C'est-à-dire le prestige tout de même de quelqu'un qui a déjà fait du théâtre, qui connaît Copenhague, qui a vécu parmi les adultes.
Et les différents milieux de Copenhague, de la société, oui.
Et je crois que ça... on voit toujours l'aspect, disons, négatif. Il a dû y avoir un aspect, s'il savait bien raconter des histoires, il a dû y avoir un aspect qui me semble positif, enfin une sorte de gloire d'avoir tout de même... parce que... Je me souviens, les années de lycée sont tout de même des années où nous demandons ce qui se passe de l'autre côté.
Oui.
Il le savait. Enfin, il le savait, ou du moins, il pouvait faire croire qu'il le connaissait bien.
Oui, c'est ça.
Donc là aussi, je ne sais pas s'il n'y a pas eu un aspect qu'il sépare, là aussi, qu'il met à part, mais pas seulement négativement.
Donc avant de continuer à remonter le temps et à parcourir la ville d'Andersen, peut-être rappeler une chose simple, c'est que le fils de la lavandière et du cordonnier a dû, après des débuts éclatants, où il était danseur au théâtre, où il était chanteur, où il avait écrit des pièces, essayer de devenir quelqu'un comme les autres et essayer de devenir quelqu'un qui a son diplôme, qui a son baccalauréat. Oui. Or, quand il a son baccalauréat et qu'il a fait l'effort de devenir quelqu'un qui va pouvoir mener la même vie que tous les autres, oui. Eh bien, on s'aperçoit qu'il est quand même...
Mais la vie d'un poète.
Qu'il est quand même différent.
Et différent, oui.
Et qu'il va rester quelqu'un en marge.
Oui, c'est ça.
Alors, nous avançons. Toujours dans les petites
voilà
pièces.
Voilà, c'est une pièce réservée aux jeunes poètes. Et maintenant, il a eu son début dans la qualité d'un poète, avec des livres en différents genres littéraires, et beaucoup influencé par la littérature allemande contemporaine. Par exemple, au premier pas, c'est influencé par Hoffmann. Ça s'appelle en danois « Fodreis », ça veut dire « marcher à pied » dans l'année de Saint-Sylvestre. Il faut peut-être souligner que c'était aussi la période où Andersen a trouvé son premier amour. Cette jeune femme, qui s'appelle Ribor Fugt, a été aimée par Andersen. Elle était la sœur d'un de ses camarades de l'école, de l'université. Mais elle était déjà fiancée et Andersen n'a pas eu le courage de rompre ses fiançailles. C'est-à-dire qu'elle va marier son fiancé et Andersen devient célibataire pendant toute sa vie. Mais il aime à plusieurs reprises.
Oui, on le verra tout au long du trajet.
Jenny Lind, je crois. Et puis, grand voyage.
Voilà, c'est assez étonnant, il faut en parler. Est-ce qu'il a vraiment assez d'argent pour partir comme il le fait
un an ? Il a mené une vie très, très épargneuse, on peut dire comme ça ?
Il a mené une vie d'épargne.
Oui, d'épargne, oui. Et puis, il reçoit une autre bourse du roi, lui permettant d'aller, comme faisaient les artistes, aller à la France, et dans le cas Andersen, en Suisse, et puis en Italie. Et c'était peut-être le voyage parmi ces nombreux voyages qui a eu la plus grande importance pour lui, parce que on peut dire qu'il a quitté le Danemark comme un écrivain talenté, mais il rentre comme un poète par la grâce de Dieu. Mais ça a eu la plus grande importance. Ces inspirations qu'il a reçues, spécialement en Italie, à Rome, la nature, le soleil,
l'Antiquité,
l'art, la population, les habitants, tout ça a influencé sa nature.
Le lundi 22 avril 1833, je quittais Copenhague. Du fond du cœur, j'élevais vers Dieu une fervente prière, le suppliant de m'accorder la grâce de produire une belle œuvre poétique ou bien de me laisser mourir en terre étrangère, loin de ma patrie. Déjà, les tours de Copenhague avaient disparu. À l'approche de la falaise de Møn, le capitaine me tendit une lettre. « Elle est venue par la voie des airs, » dit-il en souriant. Edmond Colline m'adressait quelques mots affectueux. Au cours de la traversée, plusieurs messages me parvinrent de la même manière. Mes amis, pleins de sollicitude, avaient bourré les poches du capitaine de ces petits souvenirs affectueux qu'il me remettait de temps en temps avec le même sourire et la même phrase, toujours par la voix des airs. Le conte de ma vie, Hans Christian Andersen.
Sur le panneau qui est derrière nous, il y a des fleurs que Andersen a rapportées et il a écrit en marge, ceci m'a été donné par une petite fille aveugle à Pestum.
À Pestum, oui. C'est un souvenir de voyage, de son voyage en Italie. Et puis il y a aussi les dessins que Andersen a fait lui-même. Il avait une intelligence visuelle. Il a bien su utiliser ses yeux. Et tout ce qu'il a vu, il l'a dessiné, et puis il garde le souvenir de ce qu'il a vu. Et ça est utilisé pour la deuxième fois dans le roman. Dans le roman L'improvisateur, qui est son premier roman, et qui est aussi une sorte d'autobiographie, parce que c'est une biographie en voile.
Mais nous sommes en 1835 et il a donc 31 ans.
Oui, à l'âge de 30 ans, oui, c'est ça.
Le voyage en Italie, romantiquement, sûrement pour beaucoup de gens, mais pour les gens du Nord, ça doit faire quelque chose de très différent du voyage en Italie pour les poètes français, qui d'ailleurs font plutôt un voyage en Orient.
Ah oui, mais Andersen lui-même, il va voyager en Orient, comme Lamartine.
Voilà, c'est ça, on suit.
On cherche des inspirations, n'est-ce pas? Pour Andersen, c'était une condition de vivre, de voyager. Voyager, c'est vivre.
Oui, mais alors, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'une, plus que voyager, d'une migration? Et est-ce que ce n'est pas plutôt ce sentiment de suivre les oiseaux à certaines périodes, c'est-à-dire de voyager? D'abord, voyageait-il en été, en hiver?
Ah, partout, toutes les saisons.
Partout les temps, oui.
Dans son cas, je crois que les voyages, c'était aussi une sorte de fuite. Quand il part pour l'Italie, il fuit une amour. La dame se trouve derrière vous. Elle s'appelle Louise. Elle était la fille de son bienfaiteur, M. Colline. Mais elle était aussi, elle, fiancée à un autre. Et Andersen, pour lui, c'était d'un amour désespéré. Puis il s'enfuit en France et en Italie et cherche des inspirations là-bas.
Que pense-t-il de l'Italie quand il est au Danemark et du Danemark quand il est en Italie?
Je crois que quand il se trouve au Danemark, il se jouit d'aller en Italie. Et quand il est en Italie, oui, il y en avait beaucoup de Scandinaves à Rome à cette époque-là. Et les Scandinaves formaient une colonie. Et on se rassemblait tous les soirs à Rome en lisant danois, en parlant danois et en lisant la littérature danoise. Le chef de cette colonie, c'était Thorvaldsen, le grand sculpteur.
Oui, mais alors la question, est-ce que ce qui a attiré Thorvaldsen, c'est-à-dire un des maîtres du néoclassicisme,
oui,
à Rome, était ce qui attirait Andersen à Rome?
Moi, je crois que Thorvaldsen a eu son inspiration classique, naturellement, à Rome. Mais Andersen n'est pas influencé dans le même degré du classicisme, de l'antiquité, comme Thorvaldsen. Andersen reste un enfant du 19e siècle. Oui, cette chambre est réservée au comte, parce que c'est le résultat final de ce grand voyage. Même si les comtes n'ont pas une inspiration italienne ou française ou quelque chose comme ça, les racines sont nordiques ou internationales, mais pas spécialement de l'Italie. Et c'est dans cette collection de comtes qu'Andersen a publié la Petite Sirène, les habits neufs de l'empereur, le briquet, le petit Klaus, le grand Klaus et tout ça.
La Petite Sirène, tu connais?
Oui.
Oui?
Oui, on l'a lu l'année dernière à l'école, on l'a fait étudier.
Ah bon? Si je te lis un passage, tu peux me dire ce qu'il y a avant et après? Tu peux retrouver?
Mmh.
C'est vrai? Alors, je te lis juste un petit passage, puis tu me dis ce qui se passe après. Hein, parce
D'accord.
que comme je... Bon. Le soleil venait de se coucher lorsqu'elle sortit la tête de l'eau. Mais tous les nuages étincelaient de rouge et d'or, comme ces fleurs sous-marines, et dans cette lumière brillait l'étoile du soir, douce et belle. L'air était frais et la mer apaisée. Un grand trois-mâts était là, une seule voile déployée, car nul souffle ne venait rider l'eau. Les marins se reposaient, musique et chant retentissaient, et dans le soir qui tombait par degrés, on allumait des centaines de lumières de toutes les couleurs, on eût dit que les pavillons de tous les pays décoraient le bateau. La petite sirène s'approcha du salon, et soulevée par les vagues, elle voyait à l'intérieur à travers le hublot rond. Il y avait beaucoup de gens très élégants, mais le plus beau de tous, c'était le jeune prince aux grands yeux noirs. Il devait avoir un an de plus que la petite sirène et c'était son anniversaire que l'on fêtait sur le bateau. Les matelots dansaient sur le pont et quand le prince se montrait à eux, des centaines de fusées éclairantes partaient.
Alors la petite sirène avait peur et plongeait, mais pour ressortir bientôt la tête, car il lui semblait que les belles étoiles tombaient sur elle. Des soleils tournoyaient parmi les mâts, de magnifiques poissons de feu se jouaient autour de la coque, et l'ensemble se reflétait dans l'eau noire. Sur le bateau, tout était illuminé, et la petite sirène voyait nettement chaque personne, et jusqu'au moindre cordage. Oh, comme le prince était beau, comme il serrait avec bonté les mains, et avec quel sourire. La musique enchanteresse retentissait dans la nuit merveilleuse.
Alors, après... Ça, c'était pour ses 15 ans et pour les sirènes, parce qu'elle avait des sœurs. Et pour leurs 15 ans, il fallait qu'elle monte à la surface. Elle devait remonter à la surface.
Ah, elle devait remonter. C'était une, quoi, c'était une règle ou une, comment, pourquoi elle devait remonter?
Parce que c'était pour voir comment c'était la Terre.
Ah oui.
Comment c'était le monde. Alors là, après, il y a le trois mâts qui a une vigoureuse tempête après. Mmh. Et le trois-mâts, un des trois-mâts se casse, se brise, et le bateau coule.
Et alors le prince, qu'est-ce qu'il devient?
Et tout le monde coule. Il y a des noyaux, mais alors la petite sirène, elle va secourir le prince, puis elle le ramène sur le rivage.
Ouais.
Et le matin... Il y avait des jeunes filles qui jouaient sur la plage. Puis elles voient le prince qui était allongé. Puis elles le ramènent dans leur maison. Et puis là, il est bien nourri. Alors elle, après, la petite sirène, elle revient chez elle, dans la mer.
Et... Mais qu'est-ce qu'il dit le prince? Il est très content alors? Quand il est sauvé par la petite sirène?
Mais la petite sirène, il ne la voit pas en tout.
Ah, il ne la voit pas.
Parce qu'elle se cache derrière un rocher.
Ah bon, alors il se retrouve tout seul dans la maison.
Quoi, avec les jeunes filles?
Avec les jeunes filles. Mais la petite sirène, il ne la voit pas.
Non, pas tout de suite. Ouais. Il n'aura jamais vu en sirène.
Hein?
Il n'aura jamais vu en sirène.
Il ne l'aura jamais vu. Alors, qu'est-ce qui se passe après?
Après, elle retourne chez elle et puis il y avait une statue de la mère qui ressemblait au prince. Alors, elle la regarde. Et puis, malgré que ça soit défendu, elle va voir la sorcière des mers. Et la sorcière des mers lui dit, tu le regretteras. Et puis alors elle
dit... Tu regretteras quoi? Pourquoi?
Parce qu'elle voulait... Elle voulait être une... Avoir des jambes et des bras. Et avoir des jambes.
Ah, c'est ça. Elle voulait pas rester petite sirène avec sa queue de poisson, etc. Oui. Donc alors elle dit, tu le regretteras. Et alors, qu'est-ce qui va... Alors... La petite sirène va désobéir quand même?
Oui.
Ah bon?
Et puis elle va se couper les cheveux, parce qu'elle voulait ses cheveux, la méchante en terre. Puis après, ils ont repoussé, alors.
Et... Mais tu crois qu'elle avait raison de faire ça? Ou à ce moment de l'histoire, quand c'est arrivé là, tu pensais qu'il ne fallait pas qu'elle ait des jambes, ou quoi, à ton avis? Qu'elle reste petite sirène, ou quoi?
Ben, la première fois que j'ai entendu, je croyais qu'il fallait. La première fois, mais après, j'ai connu l'histoire.
Oui.
Il y a plusieurs parmi les contes qui ont des racines dans les contes populaires, mais c'est seulement une dizaine des contes qui ont ces racines. Les autres sont pure imagination et son invention lui-même.
À votre avis, que signifie la publication de contes alors que nous voyons Andersen commencer une carrière de dramaturge, de romancier, d'écrivain? Il devait écrire aussi des nouvelles et travailler dans les journaux. Est-ce que c'est un regard, tout d'un coup, peut-être commencé en Italie justement, un regard sur ses origines profondes, sur ce que sa mère, sa grand-mère et les vieilles dames de l'Institut des Moines Gris lui racontaient? Qu'est-ce que ça signifie?
Moi, je me suis demandé pourquoi il a commencé à écrire des contes, parce que au commencement, c'était pour lui une sorte de distraction, une occupation de la main gauche. Mais tout le monde au Danemark écrivait des contes à ce temps-là, parce que le conte était en vogue. Eulenschläger a publié des contes et Hoffmann l'a fait et tout. Les contemporains, c'était les contes de Grimm sont publiés en Allemagne. Même si les contes de Grimm et les contes d'Andersen sont très différents. Mais il a cherché de gagner la génération future avec ses contes, pour les enfants. Mais Au premier pas, il n'a pas estimé ses comptes d'être. Mais il a l'ambition d'être le grand romancier, pas le grand conteur. Mais maintenant, c'est seulement les spécialistes qui lisent encore ses romans. Mais les contes sont restés comme le résultat littéraire de la vie d'Andersen, n'est-ce pas? Ce sont Andersen, on peut dire, c'est le conteur, n'est-ce pas? Et on peut discuter. Il y a un philosophe danois qui l'a exprimé dans cette manière. Les contes d'Andersen sont, comme nous le savons tous, pas écrits pour les enfants.
À Hambourg, je revis mes vieux amis et m'attachai à un nouveau, le peintre Specter. À ma grande surprise, il avait fait toute une série d'illustrations de mes contes. Parmi celles qui en ont été tirées, elles sont à mon avis les plus géniales et ont paru dans des éditions allemandes et anglaises. Specter était un fervent admirateur de mes contes. Un soir, nous nous dirigions en nous promenant vers le théâtre. Devant une riche maison, il m'arrêta. « Entrons ici d'abord, me dit-il, ce sont de mes amis et des amis de vos contes. Quelle joie pour les enfants. Mais le théâtre, nous avons encore un quart d'heure. Accordez-moi seulement 2 minutes. » Et il me tirait par la manche. Tous les enfants m'entourèrent dès qu'il m'eut nommé. « Maintenant, dites un conte. Un seul. » J'en dis un et me hâtai de gagner le théâtre. « Singulière visite, m'écriai-je. » « Excellente, répliqua-t-il enthousiasmé, tout à fait excellente. Les enfants adorent Andersen et ses contes, et tout à coup le voici qui survient. Il en dit un, et vlan, il disparaît. Pour les petits, c'est le conte lui-même qui les a visités. Et cela restera à jamais dans leur mémoire. » Le conte de ma vie, Hans Christian Andersen.
Il y a une vingtaine, je crois, qui sont bien racontés pour les enfants. Mais tout le reste, il y en a 156 sont des contes pour les adultes.
Alors, et après, la petite sirène remonte à la surface. Et elle dit, genre, mais elle ne devait pas parler, sinon elle devenait sirène. Ouais. Alors, après, elle va à cette maison où il y avait une jeune fille, et puis on l'accueille. Et puis on l'aime bien. Mais le prince, lui, va se marier avec. Avec une des jeunes filles. Mmh. Alors après, ils vont sur un trois-mâts pour faire le voyage de noces. Et les 11, je crois qu'il y en avait 11. Les 11 sœurs de la petite sirène viennent lui dire, elles avaient les cheveux coupés elles aussi, ils viennent lui dire, tu n'as plus qu'à enfoncer ce poignard, parce qu'elles arrivaient avec un poignard dans la main, une, la plus âgée. Mmh. Et elle lui dit, tu n'as qu'à enfoncer le poignard dans le cœur du prince et tu pourras devenir sirène, parce qu'elle était malheureuse puisqu'elle n'avait pas épousé.
Oui.
Et puis, à la fin, elle était trop malheureuse de tuer le prince, alors elle s'enfonce le poignard dans le cœur et puis elle se jette à elle avec le couteau, mais elle lâche et puis elle vient en écume. Parce que les sirènes, ça n'en est qu'une quand c'est mort.
Vous voulez nous dire en danois le titre des contes?
Ça s'appelle Eventyr. Eventyr en danois. Fortalte for børn. Raconter aux enfants. Et ce petit livre, sans illustration, c'est une autre question parce que les premiers contes n'étaient pas illustrés. Pas du tout. Mais plus tard, dans les 1840, on commence avec les illustrations.
Est-ce qu'on peut dire ici qu'en 1835, 36, 37, désormais la figure d'Andersen est complètement faite? C'est un romancier, c'est un homme de théâtre, c'est un homme qui écrit des contes, c'est un voyageur. Est-ce que sa vie va changer à l'avenir,
non,
ou bien
non.
Tout est posé?
Non, non. La période la plus féconde, c'est les années entre 1835 et 1850, je crois.
Mais là,
dans cette période, là, il publie.
Oui, mais il
continue jusqu'à sa mort. Il y a une collection de contes qui sont publiés 3 années avant sa mort. Et il a encore, à cette époque, la même maîtrise de raconter ses histoires.
Ah, parce qu'une sirène, ça devient de l'écume quand c'est mort.
Ben oui.
Ah bon.
C'est ce qui a marqué dans mon...
C'est ce qui est marqué dans la petite sirène, mais toi, ça te semble vraisemblable aussi.
Ben oui.
Oui.
Sinon, il n'y aurait pas des écus.
Ah oui.
Parce que les sirènes, ça existe.
Ça existe.
Ben oui.
C'est, alors, c'est, pour toi, c'est l'écume qu'on voit comme ça, de temps en
oui,
temps.
Oui, mais c'est très loin, les sirènes.
Hein?
Un bateau, ça peut pas aller voir les sirènes, voilà tout.
Hein? Un bateau, ça peut
ça
pas...
Ça peut pas aller aussi loin que les sirènes, parce que les sirènes, elles vont tout bas. Et puis, les bateaux, ils vont assez loin.
Ah oui, alors
et puis même les hommes grenouilles, ils peuvent pas les trouver parce que les bateaux peuvent pas aller où il y a des sirènes. Parce que les bateaux, ils peuvent pas aller au-dessus des sirènes.
Ils peuvent aller partout les bateaux.
Mais oui, mais ils peuvent pas aller trop loin.
Pourquoi?
Bah parce que s'ils vont à des millions et des millions de kilomètres.
Mais l'océan, on connaît bien l'océan, maintenant les bateaux vont partout.
Mais oui, mais il y a des endroits où ils n'ont pas le droit d'y aller. Et où il n'y a pas le droit d'y aller, ben il y a des sirènes.
Ah oui. Tu crois qu'il y a des endroits où ils n'ont pas le droit d'aller?
Bah oui.
Où il y a des endroits où ils ne peuvent pas passer?
Moi, je suis déjà allé en bateau. Hein.
Ouais, as-tu allé en bateau? Ouais. Et il y a des endroits où le bateau ne peut pas passer, alors?
Eh ben oui, des fois. Quoi, moi, je suis pas, y a, j'ai pas croisé d'endroit, mais, ouais. Mais le conducteur du bateau,
ouais.
Mon oncle, ben, il me l'a dit.
Il t'a dit? Le capitaine t'a dit pas question de passer dans cet endroit-là, mais il t'a
non,
dit
mais
pourquoi,
il m'a pas dit, mais il m'a dit qu'il y avait des endroits où on pouvait pas passer, mais nous on n'est pas passé.
Et toi t'en conclus
parce qu'on n'était pas passé par cet endroit.
Ouais. Et toi t'en conclus alors que c'est dans cet endroit que viennent les sirènes.
Bah,
alors,
oui.
Que sont les sirènes?
Sinon il aurait pas existé. Sinon on n'aurait jamais su qu'il y aurait existé des sirènes.
Mais alors fallait comment Andersen il sait qu'il y a des sirènes alors?
Et ben justement parce que il a dû en voir une qui a sorti la tête, et puis lui il était sur l'endroit qui n'était pas interdit, puis après il y en a une qui s'est assise, et puis elle a sorti la tête de l'eau, puis il l'a vu, voilà, c'est tout.
Et alors de son bateau,
parce qu'il a beaucoup voyagé, Andersen.
Ah ça c'est vrai, il a beaucoup voyagé. Et alors de son bateau, il aurait vu une sirène comme ça, mais alors il serait un des seuls à avoir vu, et c'est pour ça qu'il l'a écrit, qu'il l'a raconté, à ton avis.
C'est pas sûr que on peut pas en croiser à un mètre de nous, hein. Personne, il y a eu de la chance d'en voir une.
Ah oui. Mais si. T'aimerais pas que ça t'arrive un jour de voir une sirène?
Je dirais pas que je voudrais pas, mais non plus je regrette pas, et puis.
Ouais. Ah moi j'aimerais bien rencontrer une en tout cas comme ça. Alors tu crois que c'est dans les endroits que dans les endroits interdits, quoi?
Ouais.
On peut pas. Enfin, personne ne peut. Tu crois pas qu'il y a eu d'autres Andersen qui ont vu des sirènes?
Mais il y en a qu'un d'Andersen.
Oui, enfin.
Nous sommes maintenant dans le quartier d'Andersen, à côté du musée, et à l'angle de la rue Bangsbode. Et ça, comme ça qu'on dit?
C'est prononcé Bangsbode, oui. Les maisonnettes de Monsieur Bang, oui.
Voilà. Et de la rue, comment elle s'appelle?
Ramsherred. Ramsherred, c'est très difficile à prononcer, oui.
Il s'agit de petites maisons, et toutes les maisons sont basses, elles ont au maximum un étage. Ce sont des maisons qui sont construites en bois avec du torchis, je pense.
Oui. La construction en colombage, la plupart des œufs, oui.
Mm-hmm.
Ce sont des maisonnettes qui sont très anciennes, mais restaurées les dernières années pour loger des familles de notre période, de notre génération. Mm-hmm. Mais à ce temps-là, environ 1800, 1805, c'était le quartier des pauvres de Odense, ou le quartier du prolétariat. Avec les prostituées et les familles nombreuses. Dans cette maison, il y avait tant de gens à l'époque où Andersen est né, ici. Mais maintenant, ce sont les résidences de certaines familles bourgeoises.
Voilà, c'est le
avec
bon...
Avec les portefeuilles remplis.
Voilà, c'est le bon quartier d'Odense. Je crois qu'on a... Est-ce que l'image est correcte? Enfin, d'après les gravures qu'on connaît, on a le sentiment que ces rues sont bien larges pour ce village et que c'était comme ça autrefois au temps d'Andersen.
Oui, je crois que les rues ont gardé la même largesse qu'autrefois. Je peux dire que la rue qui sur laquelle donne le musée, qui s'appelle Hans Jensens Straat, la ruelle de Hans Jensen, était autrefois appelée Grönland, ça veut dire le plus nord de cette ville. il y avait une petite rivière dans la rue. Et sur l'autre côté, il y avait une rang de maisonnettes avec deux petits ponts pour passer la rivière, oui.
Alors, ce qui est maintenant est l'endroit riche de d'Odense, passablement, était autrefois l'endroit de la misère. Oui. Alors, la misère, ça se traduisait comment? Parce que ça veut se traduire par des maisons mal entretenues. Il suffisait qu'elles ne fussent pas peintes chaque année pour se dégrader avec le froid. C'est tout simple.
C'est vrai,
et puis,
oui.
Et puis une surpopulation dans les chambres est petite.
Oui, très, très, oui. Maintenant, on a construit une résidence de deux ou trois maisonnettes. On a fait un ensemble de maisonnettes pour avoir assez de place dans les maisons.
Oui. Cette maison qui est devant nous, là, qui est donc en principe celle où Andersen est né, oui. Est-ce qu'on peut en imaginer l'intérieur?
Oui. On sait que cette maison a été divisée en trois appartements. Un appartement à deux chambres, une autre à trois chambres et cuisine, et puis un appartement de simplement une cuisine. Et si Andersen a été né dans cette maison, c'était dans l'appartement d'une chambre. Avec la cheminée dans le coin, avec les ustensiles du cordonnier qui donne sur la fenêtre, et un lit, et c'est tout. Voilà, tout.
Oui, et c'est intéressant parce que ça nous montre bien que le père cordonnier était un tout petit artisan. Oui, il n'avait même pas une boutique à lui.
Non, non, non.
Hein? Un artisan en chambre.
C'est-à-dire, cette chambre était son atelier, c'était le salon de la famille, la chambre à coucher, la cuisine, tout simplement. Et c'était, vous savez, à l'âge de 2 ans, la famille Andersen a déménagé à un autre quartier de la ville, à l'autre côté de la cathédrale. Il y a une ruelle là-bas qui s'appelle Munkemühlestraße, c'est-à-dire un moulin qui guide vers le moulin. Là, on garde cette chambre, cet appartement à une chambre qui était le foyer de son enfance de 12 ans jusqu'à 2 ans jusqu'à 14 ans. Ça s'appelle maintenant la maison d'enfance d'Andersen.
Est-ce qu'on peut la voir? On y va?
Oui, oui, naturellement. Si la dame est là-bas, je ne sais pas.
C'était « Un homme, une ville », Hans Christian Andersen à Odense par Pierre Descargues. Aujourd'hui, premier épisode, le fils d'un savetier et d'une blanchisseuse. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ».